RCF. Voici l'échappée belle en musique, votre rendez-vous avec la musique classique, et j'accueille Jacques Nouvier. Bonjour Jacques.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Et Jacques, nous recevons aujourd'hui Mathieu Ferret, le directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Mais je crois que nous n'allons pas parler que du conservatoire cet après-midi.
En effet. Bonjour Mathieu Ferret. Et merci d'être avec nous pour toute une heure. Alors, on va parler du Conservatoire National de Musique et de Danse de Lyon, bien sûr, tout à l'heure. Mais j'aimerais qu'on consacre la majeure partie de l'émission à Guy Repartz. Guy Repartz, qui est un compositeur à cheval entre le 19e et le 20e. Je vous donne ces dates, hein. 1864-1965, vous voyez, il a quand même vécu très vieux. Même s'il n'a pas dépassé les 100 ans. Alors, il a beaucoup composé, et notamment de la musique religieuse. Alors, pourquoi c'est vous, Mathieu Ferret, qui allez nous en parler? Tout simplement parce que vous avez écrit, avec Benoît Menu, un ouvrage tout à fait intéressant aux éditions Papillon, qui s'appelle Joseph Guy Repartz. Alors, cet ouvrage est intitulé Guy Repartz ou le pays inaccessible. Alors, c'est quoi ce pays inaccessible?
Alors, c'est le choix de ce sous-titre, Le pays inaccessible, c'est toute une formule politique. D'abord, c'est la référence à l'opéra de Repartz, qui s'appelle Le pays. Et puis, le pays inaccessible, c'est un peu tout cet univers nostalgique, toute cette aspiration qui était la sienne à un bonheur infini, peut-être à laquelle on aspire tous d'ailleurs. Inaccessible, c'est pas tout à fait vrai, puisque de temps en temps, il l'a atteint. Et aussi parce que sa musique n'est pas faite que de nostalgie, on s'en rendra compte, c'est aussi un homme d'action. Et c'est aussi un homme dont parfois la musique est pleine d'humour, de fantaisie et de joie.
Alors il faut qu'on fasse connaissance avec Guy Repartz, avec sa musique. Alors je vous propose d'écouter un bref Ave Maria qui date de 1896. Je vous ai dit que la musique religieuse avait une grande part. Eh bien, on écoute pour commencer de la musique religieuse.
Thank you.
Éric Lebrun à l'orgue. L'ensemble vocal Michel Piquemal, dirigé par Michel Piquemal, interprétait cet Ave Maria composé par Guy Ropartz, Jacques Nouvier.
Alors, un Ave Maria, on le disait tout à l'heure, qui date de 1896. Et à ce moment-là, Ropartz est depuis 2 ans déjà directeur du Conservatoire de Nancy. Alors, est-ce que vous pourriez, Mathieu Ferret, nous donner un petit peu une idée du parcours qu'il a eu pour en arriver là? Un parcours où musique, poésie, droit ont l'air de s'en mêler un petit peu.
Finalement, c'est un parcours qu'on retrouve chez d'autres compositeurs de l'époque. Ropartz appartient à une famille de la bourgeoisie et donc il commence des études de droit parce que c'est ce qu'il faut faire dans sa famille. On lui demande de faire du droit, il commence à faire une licence de droit, mais comme le fera Ernest Chausson aussi, comme le fera Schumann lui aussi. Et puis petit à petit, quand même, la carrière artistique prend le dessus. Et il hésite longtemps entre la poésie et la musique. Il fait de la musique depuis longtemps. Il commence à composer de la musique. Il commence à en écrire relativement jeune. Mais il écrit aussi de la poésie et il va publier même des ouvrages poétiques. Mais au fur et à mesure, la musique prend le dessus. Et peut-être on peut reconnaître que sa poésie est un peu moins intéressante que sa musique. Et il va rentrer comme auditeur. Il va monter à Paris. Il va s'installer à Paris comme stagiaire à l'école du barreau pour continuer à faire plaisir à la famille. Et puis en même temps, il est auditeur de la classe de Théodore Dubois en harmonie au conservatoire. Puis il deviendra élève de Théodore Dubois. Il laissera définitivement de côté la carrière du droit. Et là, au conservatoire de Paris, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'important. Il va écouter un concert au mois de janvier 1886 qui s'appelle « Le chant de la cloche ». Qui est une œuvre de Vincent d'Indy. Et là, il a une sorte de révélation. C'est-à-dire que cette musique lui plaît tellement, il se sent tellement proche de cette musique, qu'il décide de travailler avec la personne qui avait fait travailler ce jeune compositeur et qui n'était autre que César Franck. Donc il commence à aller écouter les cours de César Franck, à être auditeur dans la classe de César Franck. Mais César Franck n'était pas professeur de composition, il était professeur d'orgue. Et donc, son professeur au conservatoire, qui était devenu Massenet, il était auditeur dans la classe de Massenet, lui dit, il va falloir choisir entre César Franck et moi. Et Ropartz, entre guillemets, un peu droit dans ses bottes, lui dit, écoutez, moi, je vais choisir celui qui ne me demande pas de choisir. Donc, je vais quitter le conservatoire et je vais continuer à travailler avec César Franck. Donc, ça montre déjà une personnalité solidement affirmée et puis une sorte d'autorité et de volonté très, très claire. Et donc, petit à petit, sa carrière musicale décolle et puis il devient père de famille. Et donc, il faut commencer à réfléchir à faire vivre cette famille. Et il regarde les postes qu'il peut y avoir à droite ou à gauche. Et finalement, il s'aperçoit que c'est en province qu'il peut trouver le poste qui lui correspond le mieux. Puisqu'en devenant directeur du conservatoire de Nancy, il devient aussi directeur de l'orchestre de Nancy. Donc, il sera à la fois directeur de conservatoire et chef d'orchestre.
Très bien. Alors, on va écouter une pièce pour piano de Guy Ropartz. Je vous propose d'écouter le 3e nocturne, qui est une pièce qui a été composée en 1916.
Françoise Tina au piano interprétait le troisième nocturne de Guy Ropartz. Vous êtes sur RCF 14h13, l'échappée belle en musique. On s'intéresse à ce compositeur français jusqu'à 15h. Avec vous, Jacques Nouvier, votre invité, Mathieu Ferret, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon.
Voilà, alors Ropartz est resté près de 25 ans, ou à peu près 25 ans, directeur du Conservatoire de Nancy. Et pendant cette période, il a beaucoup composé, et notamment un opéra dont le titre est Le Pays, vous en parliez tout à l'heure. Alors, cet opéra est bien oublié aujourd'hui. Est-ce que ça a été un succès? Et puis, en gros, c'est quoi le sujet?
Alors, est-ce que ça a été un succès? Ça a été en tout cas un succès d'estime. L'une des plus, je dirais, des plus beaux commentaires qu'on trouve sur le pays, il est sous la plume d'Honegger, en fait, qui a dit « Le drame lyrique Le Pays est une des œuvres les plus remarquables de cette première moitié de siècle. Elle a sa place marquée à côté de Péléas, d'Ariane, de Pénélope, et avec René Duménil, je demande pourquoi des œuvres puissantes et originales comme celle-là ne restent-elles pas au répertoire ?» Mais il faut reconnaître qu'à l'époque, ça n'a pas été un succès public immense. C'est pas une œuvre qui a connu des centaines de représentations. Le propos en est assez original et très breton, mais je crois qu'on reviendra sur la bretonitude de Ropartz tout à l'heure. C'est un opéra qui est consacré à l'idée de la nostalgie du pays. En fait, c'est l'histoire de Tual, un jeune pêcheur. C'est un peu comme dans Pêcheur d'Islande. C'est donc un jeune pêcheur échoué sur une île dans laquelle il rencontre Kate, dont il va tomber amoureux. Et le père de Kate va accorder la bénédiction aux deux jeunes gens à la condition que Tual renonce à revenir dans son pays natal. Mais la nostalgie du pays sera la plus forte. Et le jour où on entendra arriver les goélettes bretonnes, Tual va essayer de les rejoindre, mais il avait juré qu'il ne quitterait pas le pays sur une tourbière gelée qui s'appelle le Rafraga, et cette tourbière va l'engloutir alors qu'il tente de rejoindre les fameux bateaux.
Voilà. Alors on écoute un extrait, on écoute la scène 2 de l'acte 2 du Pays de Guy Ropartz.
Des elfes prétendent l'enfance et pour
extrait du pays de Guy Ropartz. Nous écoutions la scène numéro 2, extrait de l'acte 2, interprété par Mireille Delinche et Gilles Ragon. L'Orchestre du Luxembourg, placé sous la direction de Jean-Yves Aussons. Jacques Nouvier.
Alors, pendant la période où Ropartz était à Nancy, il a aussi beaucoup dirigé. Hein, vous le disiez, il était chef de l'orchestre. Et il a même dirigé en France la première de la Passion selon Saint-Jean de Bach. Et puis, il a aussi dirigé des œuvres de son ami Albéric Magnard. Albéric Magnard, vous savez, c'est ce compositeur qui, en 1914, a tenté de s'opposer tout seul à l'arrivée de l'armée allemande. Donc, il n'est pas resté longtemps vivant, évidemment. Alors, est-ce qu'on peut comparer un peu les styles, les compositions musicales de ces deux compositeurs ?
Je dirais que ce qui les distingue véritablement, c'est très révélateur de leur caractère. C'est-à-dire ce côté combatif, volontiers opiniâtre et voire polémique que pouvait avoir Magnard, fils du fondateur du Figaro.
Oui.
Donc grande bourgeoisie, intellectuelle, très indépendant d'esprit, athée face aux Ropartz à la fois catholique profonde. Enfin vraiment, tout pouvait les séparer. Et finalement, ils sont vraiment devenus des amis très proches et des musiciens très proches. Mais le style de Magnard est peut-être parfois un peu plus vif, un peu plus nerveux. Ce qui est très intéressant, je pense, c'est que ça révèle aussi qui était l'homme Ropartz, et notamment sa grande capacité de tolérance. Ce que je veux dire par là, c'est que au moment de l'affaire Dreyfus, Ropartz s'est retrouvé d'un côté entre Vincent d'Indy, aux convictions parfois antisémites assez notoires, et qui étaient alors clairement anti-Dreyfusard, et de l'autre côté, Magnard, qu'il était totalement. Et de Ropartz, on n'a pas un mot sur l'affaire Dreyfus, mais on a la troisième symphonie. Et ça, c'est extraordinaire. La troisième symphonie, elle se termine par un chœur. Et ce chœur, il dit « Aimons-nous les uns les autres ». Et on a le sentiment que le message de Ropartz, c'est « Ok, voilà, je suis là entre des personnes qui pensent des choses vraiment différentes. Ce qui est le plus important pour moi, c'est qu'on s'aime les uns les autres.
Voilà. »
Et on retrouve voilà, l'ardeur de ses convictions.
Ah, c'est super. Alors, je précise qu'on trouve des renseignements sur cette période de Nancy dans votre biographie, évidemment, aux éditions Papillon, mais aussi dans un ouvrage qui s'appelle « Le mouvement scoliste de Paris à Lyon », qui est paru aux éditions Symétrie, et dans lequel vous avez, vous, Mathieu Ferret, écrit un chapitre. Alors, je vous propose d'écouter la sérénade pour cordes, qui est écrite sur le nom d'Albéric Magnard et probablement composée pour l'orchestre de Nancy.
L'orchestre de chambre de Hong Kong, placé sous direction de Jean Torel, interprétait cette sérénade pour cordes de Guy Repartz, Jacques Nouvier.
Alors, 1919 est une année importante pour Guy Repartz. En effet, bon, en 1918, l'Alsace est redevenue française et Repartz en a profité, si je puis dire, pour prendre la direction du Conservatoire de Strasbourg. Alors, pouvez-vous nous dire, Mathieu Ferret, les grands moments de sa vie de directeur, 10 ans quand même, et aussi de chef de l'orchestre de Strasbourg?
Je crois que ce qui est très marquant, ce qu'on connaît mal parfois cette période de la vie de l'Alsace, il faut imaginer que le maître mot, c'était refranciser l'Alsace. C'était vraiment à tous les niveaux, donc dans l'enseignement de la langue, mais aussi dans le domaine artistique. Et donc Repartz, on lui a confié ça. On lui a dit, faut refranciser la musique en Allemagne. Alors, il faut aussi se remettre dans une époque où il n'y avait pas de disques. Et donc, tout se passait au concert. Donc, en fait, c'était le choix des œuvres données au concert qui avait tendance à apporter cette refrancisation musicale. Et donc, Repartz, effectivement, c'est très frappant pendant cette période, a beaucoup moins joué les compositeurs germaniques dont il était très proche, à commencer par Wagner, parce qu'il était dans ce courant wagnérien de la musique française. Donc, il a joué beaucoup de compositeurs. Il a même joué du Ravel à Strasbourg, ce qui était assez nouveau pour lui. Il a beaucoup plus joué Debussy qu'auparavant. Et puis, Debussy était mort, ce qui lui conférait un statut particulier. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que donc il y a eu cette œuvre-là, il y a eu au conservatoire le fait de rapporter les méthodes d'enseignement à la française, et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on observe que sa propre musique évolue et prend un certain nombre de traits qui sont un peu aujourd'hui caractéristiques de la musique française et qu'on peut dire d'une certaine façon, il a emprunté à la branche debussiste de la musique. On s'en rendra compte un peu plus tard. Mais c'est frappant. Ça amène chez lui une évolution stylistique assez forte.
Et alors, à cet endroit, donc à Strasbourg, il a embauché des professeurs prestigieux. Il a embauché Charles Münch, non pas comme chef d'orchestre, il était encore violoniste, et puis des pianistes hyper célèbres comme Blanche Selva, par exemple. Ouais. Alors, moi, je vous propose de revenir à la musique religieuse. Je vous le disais, c'est une part importante de l'œuvre de Repartz. Et je vous propose d'écouter le début du Requiem, qui est une œuvre écrite en 1938.
Thank you.
Nous écoutions le début du Requiem de Guy Ropartz, interprété ici par les solistes chœur et orchestre, placé sous direction de Michel Piquemal.
RCF, l'échappée belle en musique.
14h36 jusqu'à 15h avec Jacques Nouvier et notre invité Jacques-Mathieu Ferret, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Nous intéressons compositeur français Guy Ropartz. Alors, Mathieu Ferret, on dit souvent, en parlant de Guy Ropartz, c'est un compositeur breton. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment breton dans sa musique ?
Alors, ce qu'il y a de breton dans sa musique, c'est déjà l'inspiration, c'est-à-dire que beaucoup de... C'est notamment ses premières œuvres portent des noms comme Paysages bretons, enfin voilà, ou sont sur des sujets de légendes bretonnes. Donc il y a déjà toute une culture en fait qui est autour de ça. Et puis il y a des éléments musicaux eux-mêmes, notamment parfois l'utilisation de thèmes bretons. On va s'en rendre compte, je crois, dans l'œuvre d'après. Et puis des éléments qui sont très très liés à ce qu'on pouvait sans doute entendre aussi sur les terres bretonnes, par exemple. Chez Ropartz, il y a souvent des mouvements de cloches. Et voilà, je pense que ça fait référence à toutes les cloches qu'on devait entendre dans la terre bretonne, dans les villes et les villages où il a vécu, habité, voyagé. Voilà, mais je pense que le plus caractéristique, à mon avis, c'est sans doute cette utilisation des thèmes bretons. Et puis, on le verra un peu plus tard, notamment l'utilisation de certains rythmes bien particuliers. Mais je crois que dans la musique qu'on va entendre ensuite, ce thème, il va être particulièrement remarquable.
Alors, on va écouter le troisième mouvement, Chanson, qui est extrait d'une œuvre qui s'appelle Prélude, Marine et Chanson, qui date de la fin de la période de Strasbourg, donc probablement de 1928. Et donc, on va découvrir des mélodies typiquement bretonnes.
Thank you.
L'ensemble Stanislas interprétait le troisième mouvement de chanson extrait de Prélude, Marine et chanson de Guy Ropartz, Jacques Nouvier.
Alors Mathieu Ferret, on a parlé de Guy Ropartz pendant toute cette émission, on va encore écouter du Guy Ropartz, mais comme vous êtes directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, on va parler aussi du conservatoire. Alors, on a reçu Alain Poirier, le directeur de la recherche, il y a quelque temps, qui nous a donné beaucoup d'informations sur la structure, sur les effectifs, etc. Et donc, je ne vais pas revenir sur ces questions-là. Moi, j'aurais envie de vous demander comment vous voyez l'avenir du conservatoire de Lyon, et puis peut-être aussi plus généralement l'avenir de l'éducation musicale dans notre pays.
Alors voilà, vous me posez deux questions extrêmement importantes qui demanderaient des longues, longues, longues minutes de réponse. Donc je vais essayer de synthétiser un peu les choses. Le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon, c'est depuis le départ un endroit qui a toujours été très inventif, très innovant, très créatif, et qui est en écoute des évolutions de la scène artistique contemporaine. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, on essaye de coller à ça, c'est-à-dire au niveau de la danse, par exemple, d'être très attentif à c'est quoi aujourd'hui les évolutions de la danse dans le monde contemporain, comment on les intègre dans notre enseignement. Et au niveau de la musique, c'est pareil, c'est-à-dire de rester toujours très très axé, par exemple, sur les enjeux de la création, de rester toujours en lien avec la création d'aujourd'hui, de voir comment elle évolue, de continuer à former, évidemment, les compositeurs dans ce sens-là, mais aussi les interprètes, parce que c'est eux qui vont jouer cette musique demain, donc de les rendre attentifs à ces évolutions. Et puis, il y a quelque chose qui est très frappant aujourd'hui dans le monde artistique contemporain, c'est l'interdisciplinarité. C'est le fait que les arts dialoguent entre eux. Et donc, on est très attentif à ça, à cette dimension de l'interdisciplinarité. Et puis enfin, régulièrement, on essaye d'ouvrir des orientations nouvelles. Là, par exemple, on crée un troisième cycle dédié vraiment à des solistes de très haut vol qui veulent se consacrer à cette carrière très particulière qui est celle de soliste, la préparation des concours internationaux, l'insertion dans le milieu professionnel, et qu'on organise en lien avec un certain nombre de partenaires, l'Orchestre Symphonique de Mulhouse, l'Orchestre National d'Auvergne, ou bien pour notre parcours de master de musicien d'orchestre avec l'Orchestre National de Lyon. Donc, vous voyez, il y a voilà, toujours des pistes, et surtout être toujours au plus près des enjeux de la scène, des évolutions, et même d'être un peu en avance sur l'avenir parfois. Et puis vous me demandez après quelques mots sur l'enseignement de la musique en France en général. C'est très compliqué de répondre à votre question. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on est très attentifs, même si on est au bout de la chaîne et uniquement du côté de l'enseignement professionnel, on est très attentifs à être en dialogue avec l'ensemble du réseau des conservatoires nationaux qui forment des enfants jusqu'aux jeunes et parfois même jusqu'aux adultes, et être aussi en dialogue avec la pratique amateur. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important pour l'avenir, c'est ce dialogue entre les pratiques professionnelles et les pratiques amateurs.
Très bien, très bien. Alors, on va revenir à Guy Repart, ça, pour la musique, bien sûr. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Guy Repart a composé 5 symphonies. Et je vous propose d'écouter le dernier mouvement de la dernière symphonie, donc la 5e, qui est une œuvre qui date de 1945.
Nous écoutions le quatrième mouvement de la cinquième symphonie de Guy Ropartz, interprété ici par l'Orchestre symphonique et lyrique de Nancy, dirigé par Sébastien Lang-Lessing. Vous êtes sur RCF 14h52, l'échappée belle en musique, avec nous jusqu'à 15h. Jacques Nouvier est votre invité, Jacques-Mathieu Ferret, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Et nous parlons de Guy Ropartz.
Vous êtes un petit commentaire sur cette œuvre?
Oui, c'est quand même la dernière symphonie de Ropartz. Il l'écrit à 80 ans. Il l'écrit en 1944. C'est aussi un peu une œuvre qui fête la libération. Et c'est une œuvre qui boucle un certain nombre de choses parce que le rythme que là on a entendu, c'est un rythme à 5 temps. Et c'est un rythme qui vient de la Bretagne de Ropartz et que Ropartz avait utilisé dans une de ses premières œuvres qui s'appelle Pêcheur d'Islande. Et donc quand on parle de l'inspiration bretonne, elle vient se nicher parfois là où on ne l'attend pas forcément. Et c'est aussi, moi je trouve, un témoignage extraordinaire de se dire qu'à 80 ans, un homme comme Guy Ropartz écrit une œuvre qui termine avec autant d'énergie et de joie de vivre. C'est quand même quelque chose d'extrêmement optimiste en fait.
Ben, je crois qu'on a intérêt à être optimiste parce que ma dernière question, je ne sais pas si elle l'est tellement, est-ce que vous voyez un avenir à la musique classique dans notre pays ?
Oui.
Ah, ouf.
Oui, bien sûr. Bien sûr que je vois un avenir à la musique classique. Je pense qu'aujourd'hui, cette musique, elle sera aussi ce que les acteurs vont en faire, ce que les musiciens vont en faire. Comment ils décideront de peut-être aussi d'investir des terrains aujourd'hui qui ne sont pas investis, des formes de concerts qui sont différentes. Peut-être faut-il adapter notre façon de faire de la musique classique aujourd'hui à l'époque qui est la nôtre. On travaille beaucoup là-dessus aussi au CNSMD de Lyon. On s'interroge sur comment mettre la musique à la scène, à inventer des nouvelles formes scéniques. Il faut peut-être inventer aujourd'hui de nouvelles façons d'aller vers le public, mais moi je crois que il y aura toujours et il y a toujours un public qui a envie d'entendre cette musique-là et pour lequel ça représente quelque chose. Donc je suis pas très inquiet par rapport à ça.
Bon, on va terminer si vous voulez sur cette note très très optimiste. Alors ce que je vous propose c'est de continuer et de terminer donc avec la musique religieuse de Ropartz. Et donc je vous propose le Sanctus et le Benedictus de la messe brève en l'honneur de Sainte Anne. Alors vous savez que Sainte Anne est une sainte très très aimée en Bretagne puisqu'on la surnomme la grand-mère des Bretons. Alors on écoute quelques extraits donc de cette messe brève en l'honneur de Sainte Anne.
Thank you.
Nous écoutions successivement Sanctus et Benedictus de la messe brève en l'honneur de Sainte Anne de Guy Repartz, interprété ici par les solistes chœurs et orchestres placés sous direction de Nicole Corti, Jacques Nouvier.
Alors, il nous reste à vous remercier, Mathieu Ferret, pour être venu passer toute une heure pour parler du conservatoire et surtout de Guy Repartz, et en espérant qu'on vous retrouvera d'ici quelques temps pour une autre émission, si vous le voulez bien.
Eh bien, avec grand plaisir. Et je suis très heureux d'avoir pu rendre hommage à cette figure que j'aime beaucoup.
Merci.
Jacques, avant de vous quitter, peut-être un rappel des références du livre de notre invité.
Il s'appelle Joseph Guy Repartz, donc c'est fait par Mathieu Ferret et Benoît Menu, et c'est aux éditions Papillon.
Merci, voilà. Merci Jacques, merci également à notre invité d'être venu aujourd'hui dans cette échappée belle en musique. Les références des musiques présentées aujourd'hui sont à retrouver sur rcf.fr. Je remercie également Hugo Vincent à la réalisation technique.